Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme qui grandit à travers un chemin épineux, mais qui apprécie, embrasse pleinement ce cheminement de la vie. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Bahia Bentra Sougrati, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Shkbarak lala Bahia.
Merci à toi de m'avoir invité. Bravo pour ton émission, elle est très inspirante.
Ben, elle est inspirante et grâce aux femmes qui la font et grâce à leur confiance et grâce à votre confiance aussi aujourd'hui d'être avec nous, Lalla Bahia. Merci beaucoup. Alors, Bahia, vous êtes une femme, une femme d'affaires, une femme accomplie professionnellement, familialement aussi. Vous partagez beaucoup de choses très positives sur justement votre cocon familial. Vous travaillez dans le marketing territorial, vous êtes une experte en fait en national marketing. Mais en même temps, vous avez aussi beaucoup partagé sur la maladie que vous avez traversée, le cancer, ou plutôt les doubles cancers que vous avez traversés. Est-ce que la vie avec le cancer a pris le dessus sur les réalisations professionnelles? Quand on voit Bahia, on voit plutôt les réalisations professionnelles, la femme pro, la maman, ou bien on voit plutôt la guerrière qui a lutté contre le cancer?
Je suis un mélange de tout ça. C'est un tout pour moi. Le cancer était un autre défi. Et je crois fermement que chaque défi est une opportunité, disant même une opportunité déguisée. C'était pour moi, le cancer a été une opportunité. Ma vie a été toujours pleine de moments difficiles, alhamdoulilah, mais j'ai choisi de les voir comme des leçons, Yasmine, plutôt que des obstacles. Comme vous venez de dire, mon parcours en tant que femme qui réussit est le résultat de cette détermination à ne jamais abandonner, peu importe les circonstances, à me prouver que je peux réussir ma mission dans la vie. Qui est surtout le don de soi, le partage, la production de quelque chose de plus, même de minuscule, lors de mon passage de cette terre. Et cette idée qui m'avait un peu aidée, c'est de voir le cancer comme un défi à relever, à dépasser. Avoir un cancer a été une épreuve très difficile, la plus difficile de ma vie, mais je me suis promise de ne jamais laisser cette maladie définir la personne que je suis. Je ne voulais pas et je refuse être définie par une femme cancéreuse, mais par une guerrière de la vie, une missionnaire de la vie qui accepte tout. Voilà.
Mais justement, quand on vous fait, par exemple, intervenir pendant les journées mondiales, les mois de sensibilisation contre les cancers, est-ce que ça prend par le cœur, en fait? Est-ce qu'il y a...
Énormément. Parce que quand j'ai choisi de me battre contre cette maladie, c'était avec tout ce que j'avais. Non seulement pour moi-même, mais pour, comme vous dites, pour inspirer ceux qui traversent des moments similaires, à ne jamais perdre espoir. Si moi j'avais cette personnalité, cette vision, peut-être que d'autres femmes ne l'ont pas, que d'autres manades ne l'ont pas. Je ne vais pas dire que le chemin était facile, je ne vais pas mentir aux gens. Le chemin était difficile, épineux. Mais il m'a permis de me redécouvrir, de redécouvrir le monde, la vie. Il y a eu des jours où je me sentais, Yasmine, complètement épuisée. Mais j'ai appris que c'était justement dans ces moments de vulnérabilité que l'on découvre une force incroyable en soi. Et c'est ce que je voulais transmettre. Traverser des épreuves comme ça est un cadeau des fois du ciel. Ça peut apparaître bizarre. Mais Anna, je dis toujours merci à mon cancer parce qu'il m'a montré à quel point je pouvais être forte et résiliente et à quel point rien ne peut nous arrêter si on a la foi, si on travaille sur soi. Il y a des choses qui m'ont aidée. Et là, je peux même parler de l'importance du développement personnel, de l'importance de la spiritualité et de l'importance de l'amour. Aimer la vie, aimer ses enfants, aimer ses parents, aimer ceux qui nous entourent, s'accrocher, aimer le divin et accepter ce qu'il nous donne, dire l'alhamdoulilah et dire que ça m'arrive pour une raison. Je pense que la version de Bahia après le cancer est bien meilleure que ma version d'avant le concert.
Qu'est-ce que vous aimez, Beria, dans cette nouvelle version? Alors, juste avant de répondre peut-être à la question, juste expliquer à nos auditeurs, en fait, vous avez eu un cancer, une leucémie.
J'ai eu une LAL, une leucémie aiguë lymphoblastique de type B, et en même temps un mélanome uvéal qui m'avait coûté l'ablation de mon œil. Je porte une prothèse. Et comme j'avais dit en arabe, j'avais perdu le bassar, mais ce que j'ai gagné, ce que j'aime dans Beria, c'est le bassera. J'ai perdu une partie de la vue. Ma vision maintenant est plus large, plus profonde, plus spirituelle. C'est un peu ça. Et Yasmine, laisse-moi te dire et dire aux auditeurs que la spiritualité a été un pilier fondamental dans mon parcours de guérison. Elle m'a apporté la paix intérieure, la force nécessaire. Je devais me reconnecter à quelque chose de plus grand, parce que ce qui m'entourait, j'arrive plus à gérer. Du coup, je devais recourir au divin, à la spiritualité, à ce qui est plus grand que moi. C'est là où j'ai trouvé la résilience pour avancer jour après l'autre. Je me disais que je suis minuscule et que c'est Derby, il va faire des choses pour moi. Il faut juste avoir l'yaqin. Il faut avoir la foi, il faut la y certitude. Croire et avoir beaucoup de yaqin, de certitude. Et j'aime le dire en arabe parce que le mot a toute sa puissance. De dire que voilà, ça dépasse l'imen, ça dépasse l'im, c'est l'yaqin. C'est d'être sûr que je vais m'en sortir. Et je me suis en sortie parce que j'étais sûre.
Alhamdoulilah.
Et c'était un peu ça. Mais j'étais studieuse. Je suivais minutieusement mon protocole, les consignes des médecins. J'ai cherché à guérir à tout prix. Je suis partie partout. J'ai consulté plusieurs oncologues. Je suis partie en Espagne. C'est que je me suis aussi donné les moyens. Je ne suis pas une fataliste. Je vais dire que oui, il faut aussi travailler. Il faut chercher. Dieu ne nous dit pas que c'est bon. Oui, je suis là croisée les bras. Non. Cherchez à vous améliorer, cherchez à guérir, essaye. Parce que et il y a un verset que j'aime beaucoup, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يُشْفِينِ. Pourquoi? Parce que la maladie, elle émane de nous, pas de Dieu, mais Shifa, elle émane de lui, la guérison de lui. De lui quand on le veut, quand il sait que non, on ne veut pas être malade, on refuse d'être malade, et que notre âme n'est pas malade. Et c'était un peu ça. C'est ma conviction personnelle et j'y crois parce que ça m'a permis de m'en sortir.
Vous savez pourquoi vous l'avez eu? Si on suit ce raisonnement, vous savez pourquoi vous l'avez eu, ce cancer?
Je ne sais pas, non. Plus ou moins.
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins, oui. J'avais besoin de leçons, j'avais besoin de changer, j'avais besoin, moi, je suis une personne, des fois, qui a besoin d'être secouée pour changer. C'est une grande têtue de la vie. Genre, tu peux me conseiller mille fois, tu peux me dire, mais tu dois changer ça, c'est pas bien pour toi, tu dois quitter ça, tu dois plus fréquenter celui-là, celle-ci, changer de carrière, de métier, d'habitude. Le cancer est venu pour m'enseigner tout ça, en plein fouet, avec un choc des plus extraordinaires. J'étais obligée de changer. Et Dieu a voulu plutôt ce que je retrouve la meilleure version de Beria, et je l'ai retrouvée.
Vous avez dit justement tout à l'heure, la nouvelle version, je la préfère. Qu'est-ce que vous aimez dans cette nouvelle version?
Tout simplement, je commence à savourer la vie autrement. Les petites choses de la vie me sont maintenant très très importantes. Vraiment très importantes. J'ai changé l'orientation de mes ambitions qui étaient... surtout axé sur la carrière, sur ce qui est matériel, sur beaucoup de choses. Là, je savoure les petites choses, les petits bonheurs. Et autre chose, j'ai changé ma vision vers moi-même. Parce qu'avant, je me regardais plutôt, et c'était l'un de mes plus grands défauts, et je le dis maintenant devant l'audience, je regardais la vie à travers le regard des autres. Et je me regardais à travers les yeux des autres. J'avais besoin d'être approuvée, de dire qu'elle fait bien, je sens que je fais bien. Elle fait mal, je sens que je fais mal. Là, je sais ce que je vaux. Bien sûr que je reste bienveillante envers les autres, à l'écoute, mais je ne laisse plus personne, ni rien, définir la personne que je suis. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui en moi.
Alors, Beria, traverser une maladie, C'est la traversée beaucoup dans l'intimité aussi, dans l'intimité de ce corps qui fatigue, de ce corps qui n'est pas bien, de ses hauts et ses bas. Et on sait en général, de ce que disent les femmes, que le couple aussi en prend un coup lorsqu'on traverse une maladie. Est-ce que c'est vrai, cette idée reçue que le couple en prend un coup aussi ?
Non, du tout. Sur le plan physique, vous savez, je suis une personne qui a, disons, qui s'aime beaucoup. J'aime bien sûr ma famille, mais je n'aurais pas permis de continuer dans un couple dans lequel je me suis sentie dévalorisée lors de mon maladie. Mon mari m'a été d'un grand support. Bien sûr que moi, j'étais gênée par rapport à ce changement physique. Mais la gêne a pris le dessus, disons, une semaine, deux semaines, et pas par rapport seulement à mon mari, par rapport à ce regard duquel je viens de parler. Après, je me suis dit non, je vais apparaître comme ça, et c'était pour ça que j'avais décidé de rester chauve, de ne pas mettre de perruque, de dire que ce n'est pas mon œil, que c'est une prothèse, et de faire le tamis de ceux qui voulaient être à côté de moi, que pour des raisons physiques ou sociales ou matérielles, parce que je vais dire matérielles parce que ça englobe tout, ça englobe la position sociale, ça englobe que j'avais aussi perdu, ça englobe le physique, ça englobe cette fille coquette, etc., avec qui on veut être. J'ai essayé d'enlever tout ça et c'est une belle couche qui s'est enlevée. On a réappris à se connaître de manière plus profonde, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mon mari, que ce soit aussi avec mes frères. Et alhamdoulilah, moi je sens que je suis vraiment bénie parce que j'étais bien entourée, très très bien entourée. L'impact de l'entourage et le soutien ont été très positifs. J'avais de mauvaises expériences avec des gens qui ont disparu, qui m'ont aussi rendu la mission difficile. Il y en a qui avaient pensé que j'étais en train de faire du buzz. Il y en a qui avaient dit que tout ça ne pouvait pas être vrai, que c'est miraculeux comment elle a deux cancers et elle arrive encore à faire ça, ceci, en parler. Hein. J'ai aussi reçu ça. Mais je ne vois que la moitié pleine du verre. Que je ne serais pas où je suis aujourd'hui, Yasmine, sans le soutien de mes proches, que je remercie de manière très profonde, que ce soit ma mère, mon père, mes enfants, mon mari, mes deux frères et aussi des amis qui m'ont très très cher à qui sont très chers à mon cœur et aussi mon parrain, mon godfather. J'ai eu un cercle de soutien aimant, compréhensif. Ils m'ont donné la force de continuer dans les moments de doute et c'était aussi la même chose dans mon couple.
Magnifique. Vous avez dit j'ai refusé de mettre une perruque. Pourquoi?
Je ne voulais pas me déguiser parce que ça, c'était une version de moi que j'accepte. Je ne juge pas celles qui mettent la perruque, c'est D'accord. bien, oui, c'est très très bien. On peut la mettre, mais moi, dans mon combat personnel, chacun a ses propres outils. Et c'était l'outil principal pour pouvoir combattre cette maladie, c'était l'acceptation. Je l'ai accepté tel qu'il s'est présenté, comme ça. Elle a voulu à ce que je suis chauve, j'ai perdu. Oui, c'est un processus naturel après la chimiothérapie. Des fois, dans la plupart des cas, on perd nos cheveux. Je les ai perdus, j'accepte. Si je rentre dans le refus ou dans un double jeu avec mon subconscient, il va faire des tours. Je suis du genre à beaucoup croire en psychologie. Du coup, je devais jouer sur ma propre psychologie et j'étais aussi suivie lors de ma maladie par un psychologue que je remercie aujourd'hui, qui est Dr Rocha, qui m'a beaucoup aidée à accepter le cancer, à m'accepter dans ma nouvelle version pour la sublimer. Et c'était magique. Je m'adorais comme ça, je me suis acceptée, je me suis dit c'est un passage, c'est aussi une expérience. Je me suis trouvée belle, chauve, avec les cheveux courts. D'ailleurs, maintenant, je refuse de laisser mes cheveux pousser. Ouais. Je garde la petite coupe en hommage à cette période. Et la femme, ce n'est pas que des cheveux, qu'un physique. Et il n'y a pas un moule qui définit la femme, que tu dois avoir des cheveux lents, que tu dois être épilée, que tu dois faire ça, ceci. J'étais toujours une personne non conformiste et ça m'a aidée. Et c'est aussi un clin d'œil à la cause féminine. Il faut arrêter à chosifier la femme, à la mettre dans des moules. Tu dois avoir, genre, il y a un proverbe en arabe que j'aime pas, Nisfou Jamel El Marati Fi Sha'riha. Ça, c'est.
Ça, c'est pas vrai.
Moi, c'est très réducteur.
Ouais, réducteur.
C'est très réducteur de dire que la moitié de ta beauté réside dans la longueur de tes cheveux, mais quand même. Ouais, quand même. Du coup, et j'ai prouvé que là, je prends davantage soin de moi, de mon physique. Je me fais des petites injections, je fais attention à mon visage, à mon corps, à ma manière de m'habiller. Et je me trouve plus belle, voilà.
Et vous l'assumez, en fait. C'est rare d'entendre une femme dire « je me fais des injections ».
Oui, je le fais. J'ai là,
mais
Emma,
les femmes ne le disent pas. Même quand ça se voit, elles ne le disent pas. Elles n'ont pas envie de le dire. Non, c'est
moi,
naturel.
Comme j'ai dit, moi j'assume tout. Et c'est un process de vie qui est normal. J'ai 40 ans, j'ai eu deux cancers, j'ai subi beaucoup de protocoles. Je me suis fait injecter beaucoup de poisons, beaucoup de choses qui ne m'ont pas aidé à garder ma peau comme elle devait être, etc. Je devais m'aider et aider ce corps à se régénérer et se faire injecter, c'est régénérer un peu la collagène, c'est un peu faire un peu aider la nature.
Exact.
Et c'était un peu ça. Moi, je suis par contre la chirurgie qui va défigurer ton visage pour rien. Genre, je me réveille un jour, j'ai envie de changer mon nez, j'ai envie de changer mon visage. Ça, non. Mais faire des petites piqûres, des injections, etc., des soins, etc., ça, c'est pas...
Why not?
Pour moi, c'est why not? C'est comme du make-up, ça devient comme un soin de visage pour moi. Et tout le monde le fait aujourd'hui, voilà.
Alors, Leila Bahia, pendant cette période-là, pourtant, vous êtes une workaholic, beaucoup de travail, beaucoup de... vous êtes une femme d'affaires, chef d'entreprise, dans la communication, l'événementiel. Pendant cette période, il a fallu lever le frein un peu?
Oui, au départ, je l'ai levé, mais après, j'ai continué. C'était normal que j'étais sous le choc au départ. D'ailleurs, moi, j'ai appris pour mon cancer en avril 2019 et j'étais en pleine préparation de la deuxième édition du Village du Maroc. Alors, j'ai appris le cancer entre deux éditions. Je venais terminer en 2018 la première édition du Village du Maroc à Orlando. Et c'était là où j'avais commencé à sentir une certaine fatigue, etc. Mais je me disais que c'était le stress, que c'était la fatigue du village, le voyage, etc. Je travaille non-stop, je suis une hard worker, comme vous venez de dire, je travaille beaucoup. Je me disais que c'était la fatigue. Après, je découvre en plein, je venais de rentrer du repérage d'Abidjan, et je découvre en avril le cancer et je devais faire le Village du Maroc en juin 2019. Ben, j'ai fini par le faire en décembre 2019. J'ai attendu 4 mois et je me suis dit, écoute, Bahia, ça ne doit pas s'arrêter là. Mon meilleur ami, un très très bon ami à moi, qui m'avait dit une phrase et qui va se reconnaître, il m'avait dit, Bahia, ce n'est qu'une parenthèse, elle va se fermer. Ne ferme pas ta vie dans cette parenthèse. Une période.
Exact.
Et je suis sûre que ça va se terminer. Et c'était avec cette certitude que je me suis dit, d'accord, je vais faire les premières séances quand je les ai faites, les 4 premiers mois, j'ai rien fait. Je me suis concentrée sur moi. J'avais besoin de comprendre, de faire comprendre à mes enfants surtout. N'oubliez pas que j'avais mes enfants à l'époque avaient, Rally avait 7 ans et Fares à point à peine 2 ans. Du coup, il devait comprendre cette nouvelle version, ce changement physique. D'ailleurs, le changement physique avait plutôt frappé mes enfants, plus que d'autres personnes, parce qu'ils ne comprenaient pas. Du coup, je devais leur donner ce temps pour comprendre et je devais me donner le temps pour comprendre mon protocole, chercher là où je vais me faire soigner, adapter mon rythme, etc. Quand j'ai vu que c'est bon, je répondais, alhamdoulilah, au départ, avant de refaire la chute, je répondais au départ au traitement, etc. Je me suis dit, ça va m'aider à sortir de ce cercle de clinique, séance chimio, les pleurs de la famille, les gens qui viennent visiter, et tu regardes cette pitié. Et j'ai refusé cette pitié. J'ai refusé à ce qu'on voit cette version très faible en moi. Je me suis dit non. J'ai toujours pris les choses de ma vie en main. Je dois encore les reprendre en main. Et comment je vais faire? C'est de regagner cette indépendance. L'indépendance, on ne peut pas l'avoir si on ne travaille pas, que ce soit l'indépendance financière. Et je devais aussi subvenir à mes charges qui sont très, très coûteuses. Je me suis soignée en secteur privé. Dieu sait combien ça coûte, et j'espère qu'il y aura une grande réforme au Maroc, surtout pour les malades de cancer, parce que ça coûte hyper cher. Moi, j'avais un niveau plus ou moins bien, et j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. À un certain moment, je n'arrivais plus à payer mes protocoles et à mes soins, qui étaient très onéreux. Et là, vraiment, c'est un cri que je pousse aujourd'hui, surtout au ministère de la Santé, de trouver un plan d'action rapide pour ces gens, parce qu'on les livre à eux-mêmes, alors on les livre à la mort rapide. Du coup, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut que ces gens soient pris en charge, soient aidés. Je ne sais pas, il faut trouver une solution, parce que il ne faut pas le cacher, c'est une maladie qui est mortelle. Toutes les maladies sont mortelles, mais la vie est mortelle. J'aime pas dire ce mot d'une maladie mortelle, mais elle l'est parce qu'elle est dangereuse. Elle l'est parce que le soin n'est pas encore accessible. Elle l'est parce que les protocoles ne sont pas encore très sûrs. Elle l'est parce qu'ils se développent de manière très rapide. Elle joue sur le psychique, le physique, le tout. C'est une maladie qui transforme la vie, qui peut te changer la vie en un mois de chimio. Du coup, il faut faire quelque chose pour ces gens. J'ai toujours pensé comment je peux faire, mais toute seule, je ne peux pas. On a beau, lancer des cris, faire des associations, aider, faire du bénévolat, aider comme on peut, mais c'est un truc qui doit être fait de manière structurée, gouvernementalement. Moi, je suis pour un plan d'action rapide. Les listes d'attente dans les centres de chimio, ils sont très longues. Le nombre de lits est très... minuscule par rapport aux gens, par rapport au nombre de malades. On trouve des gens qui ne trouvent pas de place après la chimio, ils doivent rentrer chez eux en train de vomir, ils n'arrivent même pas à se tenir debout, etc. Moi, je faisais ça dans une clinique et je galérais. J'arrivais pas à tenir debout. Comment vous voulez à ce que ces gens-là, je ne sais pas ça, bref.
Il y a trop sensible le sujet. Goulet, on ne peut pas l'oublier. Oui. C'est pas parce que vous allez mieux que vous oubliez les autres.
Non, du tout. C'est la cause de ma vie aujourd'hui. C'est une cause. Je vis au rythme de ce cancer. Il ne me définit pas. Non, mais il m'a ouvert les yeux sur d'autres choses. Alhamdoulilah, moi, j'ai trouvé des gens autour de moi. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'être là pour les autres. Je ne pourrais pas, je serais pas là à te parler comme ça. J'ai été aidée, j'ai été soutenue moralement, financièrement, tout. Du coup, j'essaie de faire la même chose et de rendre l'ascenseur divin.
Oui, c'est bien dit ça, l'ascenseur divin.
Oui,
parce qu'il l'est, absolument, absolument. Bahia Benkha Sougrati, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était pas compliqué d'en reparler? Justement, avant qu'on se quitte, non?
Non, du tout, ça devient spontané parce que ça fait partie de moi. Ce n'est pas tout moi. J'ai maintenant, alhamdoulilah, d'autres projets de vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, etc. Mais c'était une belle parenthèse, une belle leçon. Elle était très, très dure. Mais le chemin de bonheur et le chemin de la grandeur est très épineux. Et ça m'a permis d'avoir une certaine grandeur. Ouais. Je suis encore petite dans cet univers, mais je me sens grande de l'intérieur. Et voilà, et ça me suffit aujourd'hui.
Merci Lalla Bahia, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.